Bonjour Rachel Hertel.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
C'est avec plaisir.
Je dis nous car nous sommes plusieurs, nous sommes une association, Mémoires à l'œuvre, dont la mission est d'aider les professeurs à aborder l'étude des grandes violences de l'histoire, et ceci à travers la découverte des œuvres littéraires et artistiques. Si bien que personne ne pouvait nous apporter une aide plus précieuse que vous.
Ben voilà qui est gentil.
Mais qui est justifié, car vous avez consacré votre vie à recueillir et à transmettre une langue, le yiddish, et une culture qui était vouée à l'anéantissement, à éditer et à traduire les œuvres littéraires publiées dans cette langue. Et cela est donc précieux pour tous nos professeurs qui se penchent sur cet enseignement. Cela vous a amené à apprendre et à pratiquer de nombreuses langues. Et nous voudrions commencer cette rencontre avec vous par vous interroger sur le rapport que vous entretenez avec ces langues, la relation que vous aviez avec elles, le commerce que vous avez avec ces langues, comme on aurait dit au temps de Montaigne. Et donc, nous allons essayer, tous les deux, de parcourir ces langues. Nous allons commencer par la langue maternelle, le yiddish, mais je vous poserai une question rapide, car le sujet sera abordé ensuite par mes collègues dans les épisodes suivants. Ma seule question sera celle-ci, concernant le yiddish. De quoi vous souvenez-vous de votre apprentissage du yiddish? Comment avez-vous appris à le parler, à le lire, à l'écrire?
Alors, la première réponse, elle s'impose. Je ne me souviens évidemment pas comment j'ai appris la langue. Personne d'entre nous ne se souvient comment il a appris sa langue maternelle. C'est par la pratique, en grandissant, en se trouvant dans un milieu yiddishophone, que j'ai appris la langue, que je l'ai pratiquée. Évidemment, je ne me souviens pas de ça, il faut que je le dise immédiatement, je ne me souviens pas de mon enfance jusqu'à l'âge de 9 ans, où nous étions, ma mère et moi, en Sibérie, déportés par Staline. Et donc, j'ai eu en fait deux premières langues. La première langue, c'est évidemment la langue maternelle, le yiddish, et le russe, que je pratiquais avec mes petits copains du village, du hameau dans lequel on vivait. Donc, je n'ai pas le souvenir de comment je l'ai appris. Ce que je peux vous dire, c'est comment je suis tombée dans le yiddish, en quelque sorte, parce que ça s'est passé plus tard. Oui. Nous étions, je ne sais pas si, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous, quand nous sommes arrivés en France, venant de Pologne, nous avons été accueillis dans une maison qui appartenait aux Rothschild, où ont été accueillis un certain nombre d'artistes, de poètes, d'écrivains, de peintres, après la guerre. Et là, c'était un milieu extrêmement stimulant et extrêmement, émouvant, et extrêmement partageur de tout ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils savaient, ils aimaient partager. Et moi, j'avais 9 ans à l'époque, et donc je jouais peu avec les enfants, et donc j'étais la plupart du temps avec des adultes. Et comme ces adultes lisaient leurs poèmes, lisaient leurs nouvelles, lisaient des romans qu'ils avaient écrits. Tous les soirs, il y avait des rencontres et j'étais présente à ces rencontres parce que j'étais fascinée. Et c'est là qu'il y a eu ma naissance véritablement au yiddish et mon amour du yiddish.
Donc il s'est créé à Paris, lorsque vous étiez à Paris, dans ce milieu où tout le monde parlait yiddish. Mais vous aviez déjà appris à le lire et à l'écrire auparavant.
Donc, parce non. que je n'avais pas été scolarisée, j'ai voilà. été scolarisée la première fois à Paris vers l'âge de 10 ans.
Donc vous avez appris le yiddish uniquement par la pratique du yiddish
par
avec
la pratique,
vos proches.
Oui, comme mais toutes les langues maternelles.
Mais vous aviez appris à lire et à écrire.
Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard, bien sûr. J'ai appris à lire, mais je crois que le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de London, qui s'appelle, je crois, je ne sais pas, un nom de chien ou quelque chose.
Croblant.
Voilà. Donc c'est le premier livre que j'ai lu en yiddish. Parce qu'en fait, j'ai appris le yiddish familialement. Oui. Ma mère était nouvelliste, comme on dit maintenant. Mon père était poète et journaliste. Et donc, c'est en leur, par leur présence que j'ai appris à lire. Et c'est le premier livre que je lis. C'est une traduction de l'anglais.
Quelle question toute bête. Il n'y avait bien sûr pas d'école ou quoi que ce soit de scolaire dans votre exil sibérien. Il n'y avait pas d'école en Sibérie.
Non, on était dans un hameau perdu au fin fond de la Russie, de la Sibérie.
Donc, c'est votre mère peut-être qui vous a appris à lire et à écrire.
Non, j'ai vraiment appris à lire et à écrire quand je suis arrivée en France.
Et vous aviez déjà 9 ans, c'est ça?
Et j'avais 9 ans.
Ah oui, donc vous avez appris à lire et à écrire à 9 ans.
À partir de 9 ans.
Bon, donc c'est rassurant au fond pour les gens qui s'inquiètent pour le retard de leurs élèves. On peut très bien
absolument
retarder.
Absolument. Et que vous savez, comme Claude Ajage dit, les 100 premières langues sont difficiles à apprendre, mais les autres, ça va tout seul.
Et vous en savez combien?
Moi, je n'en ai pas autant, rassurez-vous. Il me reste du russe, du polonais, français, bien sûr, de l'anglais. Et puis, bien sûr, du yiddish.
Mais vous n'avez pas appris l'allemand?
Non.
C'est très proche du yiddish.
C'est proche et pas proche. Ceux qui ont fait de l'allemand ont beaucoup de mal à apprendre le yiddish parce que ça brouille, en quelque sorte, leur perception des deux langues.
D'accord. Et donc le russe, vous l'avez bien connu en Sibérie, vous parliez russe, vous étiez en quelque sorte bilingue.
J'étais bilingue, quand j'ai été en Pologne, j'ai été bilingue, quand je suis arrivée en France, j'ai été trilingue, ou quadrilingue, je ne sais plus, Et puis, j'ai appris à l'école l'espagnol, mais enfin ça c'est tout autre chose, un autre type d'apprentissage.
Et ces langues, le polonais, le russe, vous continuez à avoir une pratique avec elles ou...
Pas régulière, mais comme le yiddish est une langue de fusion, et que le yiddish a accueilli des mots de diverses langues dans... parmi lesquels le yiddish évoluait, il me reste suffisamment pour que je puisse me débrouiller à la lecture, plus difficilement à parler, mais à la lecture et à la compréhension, je le pratique, oui.
Donc, vous aviez au fond un contact essentiellement oral, ou quasi uniquement oral avec les langues, jusqu'à votre arrivée à Paris à l'âge de 9 ans. Bon, donc Paris est une étape importante
très
pour votre biographie, également pour votre biographie intellectuelle, pour vos rapports aux langues. Comme nous l'avons prévu dans l'émission, nous allons lire quelques textes qui scandent l'émission et qui soulignent des moments importants. Vous nous avez proposé la découverte d'un poème yiddish sur Paris. Et je vais donc en donner la lecture en français.
D'accord. Alors, c'est un poème de Soutzkever de 1988 et qui est publié, qui est traduit d'ailleurs dans l'anthologie que j'ai faite de l'œuvre de Soutzkever. Donc, on peut commencer effectivement en français.
Voilà. Et donc, ensuite, vous en ferez la lecture en yiddish. Une feuille tombée d'une branche sous le doigt léger du vent. si vivante, plus vivante qu'avant. Frissonnant sur l'arbre, elle devient plus jeune sur terre, en roulant vive sur le trottoir. Je libère mon regard, faire connaissance avec elle et la guette vigilant. La feuille est ivre de terre et du vent de pluie, la terre source du bien. Jamais la feuille n'avait connu tel désir. Toucher la terre inconnue, quel bonheur! J'ai tant appris de cette feuille sur la vie. Le regard revenu sous ma paupière fait naître en moi une langue nouvelle. Ville à l'envers, je suis ton fleuve, ton pont et mur tombent en moi à l'envers, roulade d'acrobate. Je vois ce que voient dans ma mémoire les vagues. Je bois un verre de vin et écris au café un poème, sur les murs détruits, papier peint aux fleurs. Un couple, chat et matou, dans une niche verte. Un nuage à la barbe bleue et chez les bouquinistes. Un homme cherche un livre, pas encore paru. Un autre saute du pont. Pour quelle raison? Son manteau léger tel une voile dans les remous. Des policiers grotesques sifflent tels des trains. Personne ne sait que l'homme noyé est Paul Celan.
C'était extrêmement émouvant d'entendre lire ce qu'on a traduit, parce que effectivement ça résonne autrement que pour moi, et ça c'est formidable parce que je découvre une autre émotion, et donc je suis vraiment très heureuse de ce que vous m'apporterez, parce que je n'ai pas entendu lire de poèmes de mes traductions des poèmes de Yiddish. Et donc je vais maintenant vous lire le poème sur Paris, et puis après on passera peut-être à d'autres villes. Paris, 1988. A Blatt, a Raubgestellt von Zweig mit Winden so leichten Finger, wie lebendig erlebt, noch lebendig wie beschast, gezappelt oder auf den Bäumen. Ist als geworden Jünger beim Odrieren der Erde, beim Schwaben keicheln sich in Gasse. War frei ein Blick zu schließen, Kanntschaft mit dem Blatt und locker, mit noch ein ander Blick auf beiden. Schicker ist der Blatt von Erd und Regenweiß, und es ist die Erd von Gutzler Mocker. Als er die Seen hat er noch Besitz nicht gehabt, zu odrieren die unbekannte Erd, außer siehe, gelernt hab ich von dem Blatt und Herbst der Sach. Und als gekommen ist der Blick erheben versucht der Wiehe, geboren ist in mir eine neue Sprache. Kapoyerdige Stadt, ich bin ein Teich. Und Brick und Mäuer kapoieren in mir ein rein zirkelische Kapoier. Ich sehe, was er bloß durch alles meine so ins Korn sehen. Ich trinke noch als ein Gläschen Wein beim Schreiben in Kaffeen. Von Wind herab geschundene Tapetenblumen frische, ein Porl wie ein Kotter mit einer Katze in Gräuer Nische. A Wolken mit a blauer Bord, und bei den Bukinisten sucht Ebelzer ein Buch, was existiert noch nicht um Nisten. A Zweiter springt in mir herein von Brick, was meint sein Springen? Sein Dienermantel segelt sich, noch bleibt in meine Ringen. Kapoyerdige Polzer ernten Pfeifen wie ein Bann, derweil weiß keiner nicht, als jener Mann ist Paul Celan.
Merci. Donc je vous propose encore une question sur Paris et sur votre contact avec le français. Donc vous arrivez à Paris à l'âge de 9 ans. Vous ne connaissez pas un mot de français?
Non.
Bon. Et comment allez-vous l'apprendre?
Comment on l'apprend? Eh bien, c'est effectivement oralement. Pendant un an, pratiquement, j'ai, dans cette maison yiddish, je ne pouvais pas apprendre le français parce que personne ne le parlait, mais j'avais le contact avec des enfants de la rue aussi. Et puis, j'ai commencé à aller à l'école vers l'âge de 10 ans. Et là, je suis tombée sur une directrice d'école qui était formidable. Elle m'a dit, vous avez quel âge? Je lui ai dit l'âge que j'avais. Alors elle m'a dit, eh bien, vous allez aller en M2. Et donc, j'ai été plongée dans le bain immédiatement et il a fallu que je nage. Et donc j'ai nagé, j'ai appris la langue directement par les enfants avec lesquels j'étais en contact. Pour l'écriture, évidemment, c'était plus difficile, pour l'écriture et la lecture, mais c'est venu petit à petit une fois que le vocabulaire et la langue orale avaient été acquis.
C'est très impressionnant. Vous savez que ça intéresse beaucoup les professeurs qui, j'espère, écouteront ce que nous disons, car beaucoup de professeurs aujourd'hui sont confrontés à la situation que vous décrivez. Ils accueillent des élèves qui viennent de l'étranger, des migrants, comme on dit, qui ont vécu quelquefois des choses terribles au point de vue de leur vie personnelle, qui ne savent pas un mot de français et qu'il faut, et auxquels il faut apprendre cette langue. Et ils ont beaucoup de difficultés, ils ont beaucoup de mal. Alors, quand je regarde le résultat que vous êtes, je me dis que l'école de 1948, c'est en 1948 que nous sommes, je crois.
Oui, en 1949.
Alors, certes, vous étiez certainement un sujet exceptionnel, mais l'école a bien souffert.
Alors, l'école a bien souffert.
Elle a bien su.
Elle a bien su faire. Ah oui, bien sûr, l'école a très bien su faire et j'ai été une passionnée. Enfin, c'était une telle découverte, c'était un tel plaisir de découvrir cette langue alors que j'en connaissais déjà 3 ou 4. Donc, ça a été vraiment une grande émotion de découvrir une nouvelle langue. Moi, j'étais pour Babel, vous savez.
Et vous avez découvert aussi. J'ai écouté beaucoup d'émissions que vous avez faites, par exemple, avec Stéphane Bou. Vous avez découvert aussi la littérature française.
Oh, ben bien entendu. Ouais. Je me suis jetée sur la littérature française. J'habitais dans le 10e arrondissement à ce moment-là. Et il y avait une très bonne bibliothèque municipale. Je l'ai lue de A à Z. Et véritablement, ça a été un bonheur.
Très bien, très bien. Et alors comment, dernière question là-dessus, comment se faisait pour vous la coexistence entre ces deux langues? Il y avait la langue familiale, orale, le yiddish, et puis il y avait la langue que vous appreniez à l'école, le français.
Absolument.
Comment s'organisait la relation entre les deux langues?
Parfaitement. Suivant le milieu dans lequel je me trouvais, j'utilisais l'une ou l'autre, tout naturellement. Une fois qu'on a acquis cette langue, on peut l'utiliser suivant les circonstances, de même que j'utilise par exemple l'anglais que j'ai enseigné, je l'utilise quand je me trouve dans un milieu anglophone. Et je crois que le véritable apprentissage se fait quand on se trouve dans le milieu qui pratique soit cet art, soit cette langue, soit... C'est véritablement par le contact, je crois, avec son entourage. Surtout quand son entourage est plutôt stimulant, ce qui a été le cas à la fois dans mon milieu familial et dans mon milieu scolaire.
Vous venez de prononcer le mot anglais, vous me fournissez la transition, si je puis dire, puisque, en effet, vous avez entrepris des études d'anglais.
Tout à fait.
Et non pas de français, et cela vous a conduit, pour poursuivre ces études, à New York.
Tout à fait.
Donc nous allons peut-être ponctuer cela par la lecture d'un poème sur New York, Et cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer, et vous, après, vous
aurez
le texte yiddish. Nos auditeurs qui se familiarisent déjà avec le yiddish pourront essayer de traduire au fur et à mesure que je lirai le texte ou débaucher une traduction yiddish. New York. Il fait bon errer dans New York, loin sous la mer, parmi les vaisseaux d'or et de tristesse, se perdre parmi les poissons hurlants des Cadillacs et des Fords noirs, se réfugier auprès des banques de marbre qui gardent les trésors des princesses pétrifiées. Demander quelque chose au postier vêtu de vert, demander une rue, sans jamais aller chercher cette rue, entrer dans les parcs nocturnes et vides et attendre un brigand, un arbre, réchauffer de ses doigts froids les monuments qui ne parviennent pas à mourir.
Alors là, ça va être court, donc. New York, et le poème est de Reza Jechlinski, dont j'ai traduit un volume qui s'appelle « Porte muette ». New York. Sie ist gut zu wandern in New York, tief unter Niam, zwischen Schiffen mit Gold und mit Treuer. Plantern sich zwischen revendige Fisch, die schwarze Cadillacs und Forts. Ratte wird sich neben marmornen Bank, was hinten äußeres von Versteiner der Prinzessin. Fragen Apples bei einem grünen Briefträger, fragen über Gas und gordisch geht suchen die Gas. Reingehen in riesige und nachtige Parken und warten auf Räuber, auf Bäume, anwärmen mit der Finger kalte Monumenten, was kennen die Staaten.
Bien, et donc ma question est simple dans le prolongement des précédentes. Pourquoi l'anglais? Pourquoi avoir choisi des études d'anglais? Pourquoi avez-vous donc passé une agrégation d'anglais? Peut-être que le poème de New York donne déjà une piste de réponse, je ne sais pas.
Oui, c'est-à-dire après mon bac, je suis partie pour un an à New York et j'ai suivi des cours, j'ai suivi en étudiante libre, je ne pouvais pas me payer Columbia University, donc je me suis arrangée avec des professeurs qui m'acceptaient dans leur cours comme étudiante libre, et donc j'ai appris l'anglais, et quand je suis revenue, j'avais une passion pour New York qui a dégagé une énergie, une vitalité, un mélange de population absolument merveilleux. Et donc quand je suis rentrée, j'ai décidé que j'allais travailler sur... j'allais apprendre l'anglais. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, si j'allais enseigner ou non. Finalement, j'ai fini par enseigner et par enseigner à l'université où j'ai inscrit une thèse qui s'appelle « Le roman juif américain » et qui m'a permis de rencontrer des gens qui m'étaient souvent proches, qui étaient des immigrés comme moi je l'étais à Paris, et avec qui j'ai pu échanger et partager beaucoup. Et donc ça m'a ouvert le monde anglophone.
Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que c'est la magie de New York et la diversité du monde américain qui vous ont séduite plus que la langue anglaise elle-même?
Oui. Oui. Mais la langue anglaise, c'était mon premier contact avec la langue anglaise. J'ai commencé à vraiment l'aimer quand j'ai commencé à la lire, à la traduire. J'ai traduit aussi de l'anglais, à la parler avec mes étudiants ou avec des amis que je me suis fait aux États-Unis ou à Londres.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.